L'homme aux dents d'or. Jim Barnett, ayant soulevé le rideau de la vitrine qui fermait sur la rue le bureau de l'agence, partit d'un éclat de rire sonore et dut s'asseoir, tellement cet accès d'hilarité lui coupait les jambes.
Oh, ça c'est drôle! Si jamais je m'étais attendu à celle-là! Béchou qui vient me voir! Dieu que c'est drôle!
Qu'est-ce qui est drôle? Demanda l'inspecteur Béchou dès son arrivée.
Il contemplait cet homme qui riait en poussant de petites exclamations haletantes, et il répétait piteusement
« Qu'est-ce qui est drôle ?»«
Ta visite, parbleu !»« Quoi, après l'histoire du cercle de Rouen, tu as le courage de répliquer ici ?»«
Sacré Béchou !»
Béchou avait un air si penaud que Barnett aurait bien voulu se dominer. Mais il ne pouvait pas, et il continuait avec des quintes de gaieté qui l'étranglaient.
Oh, excuse-moi, mon vieux Béchou, c'est si rigolo. Alors voilà que toi, représentant diplômé de la justice, voilà que tu m'apportes encore un oiseau à plumer. Un millionnaire peut-être, un ministre. Comme tu es gentil.
Aussi, tu vois, je fais comme toi l'autre jour. Je te tutoie.
N'étant pas des copains tous les deux?
Allons, ne prends pas cette mine de chamouillé.
Raconte ta petite histoire.
De quoi s'agit-il? Quelqu'un qui demande du secours? Béchou s'efforça de retrouver son aplomb et articula.
Oui, un brave curé des environs de Paris.
Qu'est-ce qu'il a tué, ton brave curé? Une de ses ouailles?
Non, au contraire.
Hein? C'est une de ses ouailles qu'il a tué? En quoi puis-je le secourir?
Mais non! Seulement...
Bigre, tu n'as pas l'éloquence facile aujourd'hui, Béchou.
Soit, ne parlons pas, et conduis-moi vers ton brave curé des environs. Ma valise est toujours prête quand il s'agit de te suivre.
Le petit village de Vanneuil s'éparpille au creux et sur les pentes de trois collines qui forment à sa vieille église romane un cadre de verdure. Du chevet de cette église part un joli cimetière de campagne que borne à droite la haie d'une grande ferme où se dresse un manoir et à gauche le mur du presbytère. C'est là, dans la salle à manger de ce presbytère, que Béchou mena Jim Barnett et qu'il le présenta, comme un détective pour qui le mot « impossible » n'existait pas, à l'abbé de Sol. C'était en effet un brave homme de curé, d'apparence et en réalité gras à souhait, onctueux et rose, d'âge moyen, et dont le visage, évidemment placide à l'ordinaire, exprimait des soucis pour lesquels il n'était pas fait. Barnett remarqua ses mains boursouflées, le collier de chair de son poignet et son ventre rebondi qui tendait le cachemire d'une pauvre soutane luisante.
« Monsieur le curé, je ne sais rien de l'affaire qui vous préoccupe. Mon ami, l'inspecteur Béchou, m'a dit simplement qu'il avait eu l'occasion de vous connaître jadis. Voulez-vous maintenant me donner quelques explications, sans vous perdre dans des détails inutiles ?»
L'abbé de Sol avait dû préparer son récit, car sur le champ et sans hésitation, tirant du fond de son double menton une voix de basse chantante, il commença.
« Sachez, monsieur Barnett, que les humbles des servants de cette paroisse sont en même temps gardiens d'un trésor religieux qui, au XVIIIe siècle, fut légué à notre église par les seigneurs du château de Vanneuil. Deux ostensoirs d'or, deux crucifix, des flambeaux, un tabernacle, il y a là, oh, hélas, dois-je dire, il y avait là 9 pièces de valeur que l'on venait admirer de 20 lieues à la ronde. Pour ma part... »
L'abbé de Sol s'essuya le front, où perlait une sueur légère, et il reprit
« Pour ma part... « Je dois dire que cette garde me sembla toujours pleine de dangers, et que je l'exerçais avec une attention où il y avait autant de conscience que de peur. Vous pouvez voir d'ici, par cette fenêtre, le chevet de l'église et la sacristie aux murs épais où se trouvaient les objets sacrés. Dans cette sacristie, une porte unique, en chêne massif, ouvre sur le pourtour du chœur. Moi seul possède la clé du coffre réservé au trésor. Moi seul accompagne les visiteurs. Et chaque nuit, comme la fenêtre de ma chambre n'est pas à 15 mètres de la lucarne grillée qui éclaire la sacristie par en haut, j'installe, à l'insu de tous, une corde destinée à me réveiller par un tintement de sonnette à la moindre tentative d'effraction. En outre, j'ai la précaution de monter chaque soir dans ma chambre la pièce la plus précieuse, un reliquaire enrichi de pierreries. Or, cette nuit...
Une seconde fois, l'abbé de Sol promena son mouchoir sur son front. Les gouttes de sueur croissaient en nombre et en importance à mesure que se déroulait la tragique aventure. Il reprit.
Or, cette nuit, vers 1 heure, ce n'est pas un tintement de sonnette qui me jeta hors de mon lit, mal éveillé et titubant au milieu des ténèbres, mais le bruit de quelque chose qui serait tombé sur le parquet. Je pensais au reliquaire. Ne l'avait-on pas volé? Je criai « Qui est là ?» On ne répondit pas, mais j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un devant moi, ou près de moi, et sûr aussi qu'on avait enjambé la fenêtre, car je sentais la fraîcheur du dehors. À tâtons, je saisis ma lanterne électrique que j'allumais tout en levant le bras. Alors, je vis, en l'espace d'une seconde, une figure grimaçante sous un chapeau gris à bord rabattu et au-dessus d'un col marron relevé. Et dans la bouche que la grimace entr'ouvrait, je discernais nettement, à gauche, 2 dents d'or. Tout de suite, d'un coup sec sur mon bras, l'homme me fit lâcher ma lanterne. Je fonçai dans sa direction. Mais où était-il? N'avais-je pas viré sur moi-même? En tout cas, je me heurtai au marbre de la cheminée, à l'opposé même de la fenêtre. Quand j'eus réussi à trouver des allumettes, ma chambre était vide. Sur le rebord du balcon s'appuyait une échelle que l'on avait prise sous mon hangar. Le reliquaire n'était plus dans sa cachette. En toute hâte, je m'habillai et courus vers la sacristie. Le trésor avait disparu.
Pour la 3e fois, l'abbé de Sol s'épongea le visage. Il ruisselait. Les gouttes coulaient en cascade. Et bien entendu, la lucarne était fracturée et la ficelle d'alarme coupée. Ce qui prouve, n'est-ce pas, que le coup a été exécuté par quelqu'un qui connaît les lieux et vos habitudes. Sur quoi, monsieur le curé, vous vous êtes mis en chasse?
J'eus même le tort de crier « au voleur !» ce que je regrettais, car mes supérieurs n'aiment pas le scandale et me blâment de tout le bruit qui va se faire autour de l'aventure. Heureusement que mon voisin seul entendit mon appel. Le baron de Gravières, qui exploite lui-même depuis 20 ans la ferme de l'autre côté du cimetière, fut de mon avis. Avant de prévenir la gendarmerie et de porter plainte, il fallait essayer de rentrer en possession des objets volés. Comme il a une auto, je le priai d'aller chercher à Paris l'inspecteur Béchoux.
Et j'étais ici à 8 heures du matin. À 11 heures, c'était réglé.
Hein? Que dis-tu? Tu tiens le coupable?
Béchoux tendit l'index vers le plafond, d'un geste pompeux.
Là-haut! Enfermé dans le grenier, sous la garde du baron de Gravières.
Fichtre, quel coup de maître! Raconte, Béchoux, et brièvement, hein.
Un simple procès-verbal, dit l'inspecteur, avide de compliments, et qui pour un peu eût parlé petit nègre. Premièrement, traces nombreuses de pas sur le sol mouillé entre l'église et le presbytère. Deuxièmement, l'examen des pas prouve qu'il y eut un seul malfaiteur,
qu'il transporta d'abord les objets précieux à quelque distance, puis qu'il revint pour l'escalade du presbytère. Troisièmement, cette seconde tentative manquée, il retourna prendre son butin et s'enfuit par la grande route. On perd la piste aux environs de l'auberge Hippolyte. Aussitôt, tu interroges le baron de l'auberge. Et le patron de l'auberge me répond
« Un homme à chapeau gris, à par-dessus marron et avec dedans d'or. Mais c'est Monsieur Vernisson, le commis voyageur en épingle. Monsieur 4 mars, comme nous l'appelons, veut qu'il passe par ici tous les ans, le 4 mars. Il est arrivé hier, à midi, au petit trot de son cheval. Il a remisé son cabriolet, il a déjeuné, puis il est allé visiter ses clients.
À quelle heure est-il rentré ?
Sur les coups de 2h du matin, comme toujours.
Et il est parti maintenant ?
Depuis 40 minutes, direction Chantilly.
Sur quoi tu as filé à sa poursuite ? Le baron me conduisait dans son auto. Nous avons rattrapé le sieur Vernisson et, malgré ses protestations, l'avons contraint à tourner bride. Ah, il n'avoue pas. À moitié. Il répond « Ne dites rien à ma femme, qu'on ne prévienne pas ma femme. »
Mais le trésor ?
Rien dans le coffre de la voiture. Cependant, les preuves sont formelles. Ah, formelles ? Ses chaussures collent exactement aux empreintes du cimetière. En outre, monsieur le curé affirme avoir rencontré ce même individu en fin d'après-midi, dans le cimetière. Donc, aucun doute.
En ce cas, qu'est-ce qui cloche ? Pourquoi m'as-tu mobilisé ?
Ça, c'est une histoire de monsieur le curé. Nous ne sommes pas d'accord sur un point secondaire.
Secondaire ? C'est vous qui le dites !
Formula l'abbé de Sole, dont le mouchoir semblait sortir de l'eau.
Et qu'y a-t-il donc, monsieur le curé ?
Eh bien, voilà. C'est à propos...
À propos de quoi ?
À propos des dents en or. Le sieur Vernisson en a bien deux. Seulement...
Seulement ?
Elles sont à droite, tandis que celle que j'ai vue était à gauche.
Jim Barnett ne put tenir son sérieux. Un rire subit le secoua. Comme l'abbé de Sol le regardait avec ahurissement, il s'écria
« À droite ! Quelle catastrophe ! Mais êtes-vous certain, vous, de ne pas vous tromper ?
J'en prends Dieu à témoin.
Cependant, vous aviez rencontré cet individu.
Dans le cimetière, c'était bien le même. Mais la nuit, ça ne pouvait pas être le même, puisque les dents d'or sont à gauche et que celles-là sont à droite.
Il les avait peut-être changées de côté.
Béchou, amène-nous donc le personnage.
2 minutes plus tard, entrait lamentable, courbé, figure mélancolique à moustache tombante, le sieur Vernisson. Il était accompagné du baron de Gravière, au bras solide, carré d'épaule, et qui portait un revolver au poing. Et tout de suite, M. Vernisson, qui semblait abasourdi, se mit à geindre.
« Je n'y comprends rien à votre affaire. Des objets précieux, une serrure brisée, qu'est-ce que ça veut dire ?»«
Avouez donc, au lieu de bafouiller.
J'avoue tout ce qu'on veut, pourvu qu'on n'avertisse pas ma femme. Ah ça non, je dois la rejoindre chez nous, près d'Arras, la semaine prochaine. Il faut que j'y sois et qu'elle ne sache rien. »
L'émotion, la peur, lui ouvrait la bouche de travers, en une fente où l'on voyait les deux dents de métal. Jim Barnett s'approcha, mit 2 doigts dans cette fente et conclut gravement
« Elle ne bouge pas. Ils ont bien des dents de droite. Et monsieur le curé a vu des dents de gauche. »